BW. Vue d'Allemagne.
Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will. Ende letzten Jahres, es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf.
Traduction, plus personne ne se moque d'une petite fille aujourd'hui quand elle dit qu'elle veut devenir ministre ou même chancelière. Et à ce qu'il paraît, à la fin de l'année dernière, on s'est même demandé si on pouvait donner le poste de chancelier à un homme. Trait d'humour d'Angela Merkel cette semaine pour souligner que c'est elle, une femme, qui est à la tête du gouvernement fédéral allemand. Trait d'humour lors des célébrations du 12 novembre 1918, jour depuis lequel les femmes ont le droit de vote en Allemagne. Ça fait donc 100 ans cette semaine et on en parle dans un instant. Et puis dans la seconde partie de Vue d'Allemagne, direction la Grèce, à la rencontre de la minorité slave macédonienne qui vit sur place, discriminée à cause de sa langue ou de sa culture. Mais d'abord donc, retour sur un événement historique en Allemagne. Willkommen, bonjour et bienvenue à tous.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich. Und insofern kann man also aus der Tatsache, dass es mich gibt, da darf kein Alibi draus werden.
Une hirondelle ne fait pas le printemps et ce n'est pas ma présence qui doit servir d'alibi. En clair, ce n'est pas parce qu'une femme dirige le gouvernement que l'égalité entre les sexes en politique est gagnée. Angela Merkel encore pleine d'humour ce lundi 12 novembre pour fêter les 100 ans du droit de vote des femmes en Allemagne. Une cérémonie à Berlin où la chancelière a insisté sur ce droit essentiel et insisté aussi pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la société. Alors, comment ce droit de vote a pu voir le jour et surtout, où en est-on sur ces questions d'égalité en politique en Allemagne aujourd'hui ? On en parle avec notre invitée depuis Berlin, Cécile Weidhofer. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'Académie européenne pour les femmes en politique et en économie. Vous dirigez des projets pour la parité et pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est bien ça.
C'est bien ça, oui. Un gros et beau chantier ici en Allemagne, oui.
L'Allemagne qui a donc fêté les 100 ans du droit de vote des femmes ce lundi. Un pays où c'est une femme, Angela Merkel, qui dirige le gouvernement. Mais on voit aussi que tout n'est pas gagné. 37% des députés étaient des femmes au Parlement en 2013, à peine plus de 30% aujourd'hui, un tiers. On est bloqué, il y a un problème.
En effet, les femmes sont sous-représentées, et ce dans tous les parlements, qu'il s'agisse du Parlement au niveau national, au niveau des Länder, parce que l'Allemagne est un État fédéral, et autant au niveau des communes. Et c'est pour nous un sujet très grave, puisqu'on ne peut pas exclure la moitié de la population dans les lieux de décision que sont les parlements. Le grand tabou actuellement, c'est peut-on arriver à une parité en politique ? Nous parlons actuellement de réforme du système électoral. Est-ce que dans ce cadre de cette réforme, on pourrait proposer une loi sur la parité, comme elle est par exemple en France ? Différents Länder s'occupent un petit peu, se penchent sur la question actuellement, notamment le Brandenburg, donc qui est quand même le land voisin de Berlin, souhaiterait une réforme pour imposer la parité au niveau des listes électorales. Parce que c'est là souvent qu'arrive le problème, c'est que les femmes, elles sont là en politique et elles sont très présentes, elles sont très engagées sur le terrain, souvent dans de nombreuses associations. Mais le problème que nous rencontrons souvent, c'est comment faire pour que ces femmes puissent ensuite être proposées sur les listes électorales dans des positions qui pourrait leur donner la possibilité d'être élu. Si c'est pour être en place en 10e ou 12e place sur une liste, évidemment, la chance est moindre d'être élu. Il faut arriver à alterner peut-être hommes-femmes sur ces listes électorales. Et c'est la question actuellement qui se pose en Allemagne, qui n'est pas évidente à résoudre, puisque on soulève la question de savoir s'il faudrait peut-être changer la constitution allemande pour permettre justement ce changement de système électoral.
Est-ce que pour vous, une loi, justement, est nécessaire ? La parité ne viendrait pas d'elle-même avec le temps ?
Alors, clairement, non. La tendance actuelle nous le montre clairement. Encore une fois, nous avons au Bundestag seulement 30,9% de femmes, alors que nous avions, dans la dernière période, 37% de femmes. Et nous avons vu aussi au niveau régional, en Bavière, par exemple, aux dernières élections, nous avons actuellement seulement 26% de femmes présentes au Parlement du Land, qui est un taux comme on l'avait il y a 20 ans en arrière. Donc, on voit clairement que si on ne développe pas une réglementation adaptée pour augmenter le taux de femmes dans les parlements, le problème ne se réglera pas de lui-même et c'est assez dramatique.
Vous parlez de tabous, vous comparez à d'autres pays européens. Est-ce que vous pensez que sur ces questions d'égalité hommes-femmes en politique, l'Allemagne serait plus conservatrice que d'autres pays européens, qu'il y a un problème là derrière ?
Alors, je ne dirais pas qu'il y a forcément un problème là derrière par rapport à d'autres pays européens. Certes, nous sommes très heureuses et heureux aussi d'avoir entendu Madame Merkel lundi dernier, donc dans le cours de cette cérémonie pour fêter les 100 ans du suffrage des femmes en Allemagne, qui s'est donc engagée pro-parité, mais c'est assez nouveau, puisque jusqu'à présent, elle ne s'est jamais trop engagée sur la question. Elle parle très peu de cette question-là, d'égalité d'hommes-femmes. Donc nous espérons qu'une brèche va pouvoir s'ouvrir sur ce terrain-là. Actuellement, la ministre de la Justice, Madame Barley, est très présente dans la presse allemande pour justement promouvoir une réforme du système électoral en abordant la question de la parité. Donc des choses se passent actuellement en Allemagne. Il faut juste espérer que c'est pas juste un petit coup de pub dans la presse parce que le 12 novembre s'y prête, mais qu'il y a une intention derrière. Nous avons aussi de nombreuses initiatives, pas uniquement en politique, mais aussi dans la société civile, ou dans le domaine du cinéma, par exemple, de la médecine, qui justement essaie de promouvoir des quotas pour les femmes.
Merci beaucoup, Cécile Weidehofer. Vous êtes, je rappelle donc que vous travaillez à l'Académie européenne pour les femmes en politique et en économie et que vous dirigez des projets pour plus de parité, pour la parité et pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Aretha Franklin avec Respect, chanson en anglais, une petite entorse à nos découvertes allemandes normalement chaque semaine. Mais cette chanson interprétée par la reine de la soul morte en août dernier s'est imposée à notre sujet. Chanson d'Otis Redding en 1965, elle deviendra un symbole éternel de la cause féministe et politique lorsqu'Aretha Franklin l'interprétera en 1967. Vue d'Allemagne, deuxième partie, direction la Grèce. Le pays du sud-est de l'Europe est en train de régler un conflit vieux de 25 ans avec son voisin, la Macédoine, qui sera bientôt la République de Macédoine du Nord. Changement de nom pour faire plaisir à Athènes. La Macédoine était le nom du pays depuis son indépendance en 1991, mais Athènes ne l'acceptait pas, jugeant qu'il doit être réservé à sa région autour de Thessalonique. Cela devrait donc changer prochainement, ouvrant du même coup les portes de l'Union européenne et de l'OTAN à la Macédoine. Ce qui ne changera pas de suite, en revanche, c'est le quotidien de la minorité slave réprimée dans le nord de la Grèce. Des hommes et des femmes qui vivent donc en Grèce, mais pas tout à fait comme ils l'aimeraient. Thomas Jacobi nous emmène à leur rencontre.
Sur la place du village de Militi en Macédoine grecque, à moins d'une heure de route vers la frontière de l'ex-république yougoslave de Macédoine, ce n'est pas le grec qui domine les conversations, mais le slavo-macédonien, la langue maternelle de la minorité macédonienne slave de Grèce.
Ici, on est tous bilingues, on est frontaliers, on parle le grec et le bulgare.
Une langue que les Grecs péjorativement appellent bulgare. Ici, tous les villages ont des noms grecs depuis plus d'un siècle, mais ce n'a pas toujours été ainsi. Pavlos Voskopoulos, membre fondateur du parti slavo-macédonien de Grèce, le parti Arc-en-Ciel, nous énumère quelques-uns dans les deux langues. Le bureau du parti se trouve dans le centre-ville de Florina. C'est là que nous avons rencontré Pavlos. Des bureaux qui, dans le passé, ont été la cible d'attaques.
On nous a brûlé nos bureaux, tout le monde s'y est mis. La mairie, la police, les forces anti-émeutes. On s'est retrouvés tout seuls parce qu'on a mis une pancarte du nom de notre parti en trois langues, anglais, français, macédonien.
Pour les Grecs, la minorité slavo-macédonienne n'existe pas. Il n'y a, selon le terme consacré, que des bilingues. Il y a quelques années, c'était impossible pour un bilingue d'avoir un poste gradé dans l'armée, de trouver du travail dans la fonction publique où il était fréquent de se retrouver au poste de police pour avoir osé parler sa langue maternelle dans la rue. Désormais, il n'y a plus de répression à proprement dit, mais les brimades, les humiliations sont fréquentes. Pavlos ne sait pas quoi dire à sa petite fille Melina, âgée de 5 ans et demi, mais déjà victime de cette discrimination.
Je me pose la question, quoi dire à ma fille de 5 ans et demi? Ma femme vient de la République de Macédoine et à la maison, on parle les deux langues. Avec sa mère, elle parle le macédonien et avec moi, le grec. Et un jour, la fille est venue de la place où elle jouait et m'a demandé « Pourquoi on me traite de bulgare ?» Qui c'est qui t'a dit ça, ma fille? Excusez-moi, je suis ému. C'est pas grave, Melinika, je lui dis. Quand tu grandiras, je t'expliquerai. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Vous savez, ici, on ne peut pas avoir nos vrais noms. On est plusieurs à faire des démarches administratives. On a été jusqu'au Conseil d'État parce qu'on veut retrouver nos vrais noms familiaux. Personnellement, j'ai fait la demande de m'appeler Pavlos Voskopoulos Filipov. Ça a été rejeté.
Pour comprendre cette répression, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qui a suivi, où communistes grecs et yougoslaves ont tenté de créer un État macédonien qui aurait amputé la Grèce d'une grande partie de son territoire. Aussi, à la fin de la guerre civile, slavo-macédoniens et communistes ont été chassés du pays sans pouvoir y revenir. Presque tous sont depuis morts en exil dans les différents pays de l'ancien bloc communiste. Ceux qui sont restés en Grèce ont été grécisés de force. Au village de Xinanera, Petros Vassiliou, la cinquantaine, se souvient, encore en colère.
J'ai commencé à parler le grec à 5-6 ans. À la maison, on ne parlait que le macédonien. À l'époque, il n'y avait pas de maternelle dans le pays, sauf ici, où il y en avait 4 par ville et une par village. Rien que chez nous, vous imaginez, Athènes n'en avait que 4 à l'époque. On nous y envoyait le matin tôt et on rentrait tard le soir. On dormait et on mangeait là-bas. Ils voulaient nous couper de notre environnement familial. On rentrait fatigué le soir à la maison, on allait dormir et le lendemain, ça recommençait. Tout ça pour nous faire oublier notre langue.
Ce sombre passé ne fait pas partie de l'histoire officielle de la nation grecque. Pour Leonidas Embirikos, historien grec, c'est ce qui explique la violence du nationalisme grec sur la question.
C'est un choc quand on apprend qu'une grande partie de la Grèce du Nord était peuplée d'un peuple orthodoxe mais non grecophone. C'est un choc. C'est quelque chose qui n'a jamais été dit publiquement. Donc ça fait des mentalités.
Le parti arc-en-ciel ne veut ni changement de frontières, ni changement du nom de la République de Macédoine. Ce qu'il veut, c'est la reconnaissance de la minorité slavo-macédonienne de Grèce et le respect de ses droits culturels et linguistiques, ainsi que la levée des lois qui interdisent aux dizaines de milliers de bannis de 49 et surtout à leurs descendants de rentrer dans leur village d'origine en Grèce. D'Athènes pour la Deutsche Welle, Thomas Jacobi.
Vue d'Allemagne, à réécouter, à partager dans la médiathèque sur notre site internet www.dw.com/français, français sans cédille. Le prochain numéro, ce sera la semaine prochaine. En attendant, puisque celui-ci touche à sa fin, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Bisbald, à très bientôt. Tschüss!